Il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, roi d'Abiel, fils de Zeror, fils de Bérocat, fils d'Aphia, fils d'un Benjamite qui était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. Celui-ci était jeune et beau. Aucun des Israélites n'était plus beau que lui, il les dépassait tous d'une tête. Les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Kish dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, je te prie, et va rechercher les ânesses. » Il traversa la région montagneuse d'Éphraïm, traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il traversa le pays de Shalim et toujours rien. Il traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Ils étaient arrivés au pays de Zouf lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens, retournons de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. » Il lui répondit, « Il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, un homme considéré, tout ce qu'il y arrive. Allons-y maintenant. Peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devrons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Il n'y a plus de pain dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? » Le serviteur répondit à Saül, « J'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait, « Allons chez le voyant, car le prophète d'aujourd'hui, on l'appelait autrefois le voyant. » Saül dit à son serviteur, « Bien dit, viens, allons-y. » Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau, et ils leur demandèrent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent, « Oui, il est là, devant toi. Mais maintenant, va vite, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple au haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Le peuple ne mangera pas avant qu'il soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela, les invités mangeront. Montez donc maintenant et vous le trouverez tout de suite. » Comme ils arrivaient au milieu de la ville, Samuel sortit à leur rencontre en montant au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, le Seigneur avait informé Samuel en disant, « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui conféreras l'onction pour qu'il soit chef sur Israël, mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. En effet, j'ai vu mon peuple et ses cris sont venus jusqu'à moi. » Samuel aperçut Saül et le Seigneur lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à l'intérieur de la porte de la ville et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « Je suis le voyant. Monte avec moi au haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je te renseignerai sur tout ce qui t'inquiète. Ne t'inquiète pas de tes ânesses qui ont été perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours, elles ont été retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père ?» Saül répondit, « Ne suis-je pas Benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la part que je t'ai donnée en te disant, « Mets-la de côté. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et il la plaça devant Saül. Il dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car c'est ce qu'on t'a gardé pour la rencontre festive quand j'ai invité le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit en terrasse. Puis ils se levèrent du bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit. Il lui dit, « Lève-toi, je vais te reconduire. » Saül se leva et ils sortirent tous deux de la maison, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi un instant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. »
J'ai lu dernièrement un entretien avec une certaine Jamaica Kincaid. Alors, excusez-moi. Là. Elle existe bel et bien. Dans un entretien, le journaliste lui pose des questions et relève le fait qu'elle a eu un parcours assez exceptionnel au départ. Et donc, c'est une romancière à succès aux États-Unis. Et au départ, elle est venue simplement en tant que fille au pair, femme de ménage. Et sa mère l'avait envoyée de Jamaïque aux États-Unis pour gagner de l'argent pour toute la famille à l'âge de 17 ans. Et donc, avec un destin pareil, elle veut relever le fait qu'il y a eu un changement énorme. Des années plus tard, elle a remporté le prix Femina ici en France. Et on entend le fait que Kincaid a accueilli la sympathie des uns et des autres pour pouvoir monter petit à petit dans la société. La journaliste lui demande si elle a recherché le bonheur, si c'est quelque chose qu'elle a poursuivi, comme c'est mentionné dans la Constitution américaine, la poursuite du bonheur fait partie des principes fondateurs. Et elle répond non, c'est pas du tout le cas. Et elle affirme qu'elle voit plutôt dans la vie quelque chose de difficile, de pénible, où on a de la peine à envisager la suite. Et elle relève l'illustration d'un enfant qui vient à naître. Son premier cri, c'est les pleurs. Et pour elle, c'est significatif d'une vie qui aura un aspect pénible et on ne sait pas ce qui va advenir par la suite. Il faut reconnaître qu'on est touché par des renversements, le cas de cette femme par exemple, le cas aussi dans notre texte de quelque chose, de quelqu'un d'inconnu, totalement inconnu au bataillon et qui tout à coup devient célèbre. Et en même temps, ça pose des questions. Comment voir cette destinée? Comment réfléchir nous à notre destinée? Est-ce qu'il faut voir dans ces renversements un dur labeur, le hasard, suite de coïncidences, la souveraineté de Dieu? Et ça pose tout simplement des questions liées à la responsabilité, notre liberté, est-ce qu'elle est engagée? Et la souveraineté de Dieu dans tout ça? Et aussi, en pensant à ces questions, est-ce que ça garantit une bonne fin? S'il y a eu un tel retournement dans une vie, est-ce que tout le reste va être facile et aussi facile? Aussi beau, aussi étonnant. Les deux points de ce soir, c'est à la recherche des années perdues et à la rencontre du roi voulu. On va commencer avec à la recherche des années perdues. Et en voyant cette partie-là, à quoi est-ce que vous avez pensé? À quoi? À l'arche perdue, exactement. À la recherche de l'arche perdue. Un grand classique, hein. Moi j'étais fan quand j'étais gamin. Mais si on regarde Indiana Jones et sa manière d'entrer dans une recherche, qu'est-ce qu'il caractérise? Son intelligence d'esprit, sa pugnacité, sa persévérance face au corrompu archéologue français Belloc, vous vous souvenez dans celui-là? Il arrête pas, il lâche pas l'affaire, il s'accroche jusqu'au bout. Ici, avec Saül, vous avez affaire, on a affaire à l'anti-Indiana Jones. C'est complètement l'inverse. Déjà, c'est pas lui qui est parti à la recherche de ses ânesses, qui a eu l'idée plutôt de partir. Il part à la recherche de ses ânesses égarées parce que c'est son père qui lui demande de le faire. Mais il n'y arrive pas. Par contre, il y aura à la clé quelque chose de grandiose qu'il va découvrir et sa destinée va changer. Mais ce n'est pas dû à sa lucidité, sa pugnacité, sa persévérance. On nous le présente au départ comme un membre de la tribu de Benjamin, dont le père est un vaillant guerrier. On note au passage que ce n'est pas sa description. Pour lui, il est dit, il est jeune et beau, et il dépasse tout le monde d'une tête. C'est très bien, mais ce n'est pas lui le vaillant guerrier. Tout commence avec les ânesses, donc qui s'égarent, et son père qui lui demande d'aller les trouver. Et si on imagine quelque chose de tout à fait ordinaire dans la vie de quelqu'un à cette époque, ça serait dans la liste des choses. Chercher des animaux égarés. Rien d'exceptionnel, rien de bouleversant. Mais on peut noter chez lui quand même quelque chose de beau, une attitude d'humilité, de respect vis-à-vis de son père. C'est pas quelqu'un, je suis au-dessus de ça ou non. Il accepte cette demande, il part à la recherche. Mais c'est le constat d'un échec à trois reprises, il ne les retrouve pas, il ne les trouve pas là, il ne les trouve pas là. Cette recherche l'a mené dans le pays de Tsouf plutôt. Et là, Saül, se dit qu'il faudrait retourner à la maison pour éviter que son père ne s'inquiète. Son serviteur, lui, a une idée. Il lui suggère qu'il serait intéressant de consulter un prophète. Au départ, il est question d'un voyant, mais d'un homme de Dieu. Mais il s'agit bel et bien d'un prophète qu'ils veulent rencontrer. Il se dit que cet homme serait en mesure de les aider à trouver ses ânesses perdues. Saül se demande ce qu'il pourrait lui offrir en échange de ce service. Et là encore, c'est le serviteur qui vient avec la solution. J'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Ils prennent la direction de la ville en question. Et c'est là qu'ils rencontrent des femmes qui sortent pour puiser de l'eau. Et l'auteur décrit ici encore l'aide qu'ils reçoivent de la part de ces femmes dans les indications, dans leur recherche. Le temps presse, les femmes le relèvent. Et l'homme de Dieu est sur le point de rejoindre toute une foule pour offrir des sacrifices. Et donc, il faut se dépêcher pour aller à sa rencontre, si vous voulez bel et bien le voir, parce qu'après ça, il sera très sollicité. Maintenant, on a découvert tout ça, on prend un peu de recul et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a lu tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a toute cette description détaillée de la recherche, les échanges avec tel et tel, le quart de cycle, etc.? Pourquoi est-ce qu'on a tout ça? Bien, la suite nous aide à comprendre au verset 14. Comme ils arrivaient au milieu de la ville, Samuel sortit à leur rencontre en montant au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, le Seigneur avait informé Samuel en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui conféreras l'onction pour qu'il soit chef sur Israël, mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. En effet, j'ai vu mon peuple et ses cris sont venus jusqu'à moi. » Dans ces quelques mots, on comprend finalement toute l'explication qui précède. Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et dans toute cette chaîne de petits non-événements, le père qui envoie son fils à la recherche d'un esperdu, les recherches infructueuses, l'endroit où tout cela les a menés, l'idée du serviteur, les femmes qui disent que le temps presse, toutes ces petites mini-décisions sont finalement en train de le mener à l'endroit, à la personne qu'il doit rencontrer, Samuel. Une promesse que Samuel a reçue 24 heures plus tôt, celle de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce qui se passe ici? On a vu dimanche dernier que le peuple demandait un roi pour qu'il règne sur eux. Et on se souvient que cette demande, c'était comme un rejet de la royauté de Dieu. Celui qui exerçait cette royauté, c'était lui. Et en demandant un roi, il le rejette. Et on pourrait voir là la démonstration de quelque chose où finalement la liberté de l'homme a pris le dessus. On ne veut pas que tu règnes sur nous et tu es rejeté loin de notre destinée. C'est à nous de mener finalement avec un nouveau roi notre destinée. On pourrait y voir une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle le libre arbitre. Quelque chose qui ressemble à un Dieu qui est sur la touche et qui finalement, parce qu'il nous a donné la décision et qu'on le rejette, eh bien, il observe du côté ce qui se passe. Mais ce n'est pas le cas ici. Oui, il y a bel et bien une liberté, une responsabilité de la part du peuple. Elle était pleine et entière, dans le sens où ils ont choisi de rejeter Dieu. Mais Dieu n'est pas sur la touche. Il est souverain. On peut faire un exercice intéressant si vous regardez le texte et vous lisez jusqu'au verset 14. Et ensuite, au lieu de lire les versets 15 à 17, vous les sautez et vous allez au verset 18 et suivant. Ça se lirait naturellement. Vous pourriez lire ce récit comme si, finalement, par coïncidence, il rencontrait Samuel. Mais ce n'est pas le cas. Il y a cette explication qui nous dit que cette rencontre, elle était voulue dès le départ. Est-ce que ça devrait nous attrister en nous disant, mais finalement, on doit présenter un Dieu qui est souverain dans n'importe quelle situation? Est-ce qu'on ne devrait pas dire qu'il nous rend libres, qu'il est finalement spectateur et que nous sommes entièrement libres et lui, il est plus souverain dans ces situations-là? Si ça reste difficile à expliquer, il faut voir les deux dans ce texte. Il y a à la fois la liberté humaine, la responsabilité qui est engagée et en même temps la souveraineté de Dieu. On a de la peine à les mettre ensemble, mais elles sont bel et bien présentes toutes les deux dans ce texte et l'ensemble de la Bible aussi. Quelqu'un pourrait dire, mais bon, ce texte-là, il concerne un roi, il concerne une certaine époque dans l'histoire de la rédemption, mais ça, dans ma vie à moi, ça ne me concerne pas, cette souveraineté, cette responsabilité humaine. Est-ce que ça n'arrive qu'à des moments clés dans l'histoire, à certaines personnes d'une élite? Écoutez ces deux versets qu'on trouve dans les Proverbes. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Qui peut comprendre l'être humain à sa voix? Ce n'est pas réservé à une élite ou à des moments particuliers dans la vie de quelqu'un. Dans le simple fait de marcher, d'avancer, Dieu est souverain là aussi. Et l'homme est engagé dans sa responsabilité. Ça me rappelle des circonstances quand je me rendais pour mon mariage avec Anna aux États-Unis. Et en fait, c'était au mois de février, il y avait des intempéries. Et avec un de mes témoins, on était restés bloqués à Londres. Et on devait repartir le lendemain. On avait du temps à tuer et on allait au bureau de la compagnie aérienne pour se renseigner. Il y avait mes trois sœurs qui, quelques jours plus tard, allaient aussi transiter par Londres. Et on a posé des questions sur leur vol, on a commencé à plaisanter. On avait le temps de discuter, donc on l'a pris. Et à un moment donné, le membre du personnel a demandé « Et le nom de d'une de vos sœurs, c'est quoi ?» Alors, on a donné, c'était Ra, et à mon, c'est vraiment son nom de famille, hein, R-A-T. Et puis, mon ami a fait une blague sur son nom. Et quelques jours plus tard, deux de mes sœurs sont arrivées pour transiter par Londres. Et cette sœur-là a eu un souci avec un document. Personne n'a pu l'aider pour le résoudre à temps. Toutes les personnes étaient embarquées dans l'avion. Déjà tous dans l'avion, elle n'avait même pas passé la première étape. Et là, l'autre sœur, eh bien, elle s'est résignée à rentrer dans l'avion malgré tout, et il fallait y aller. Un peu désespérée, ma sœur s'est rendue comme un dernier recours à ce bureau où on était allé quelques jours plus tôt. Et quand elle a donné son nom, un membre du personnel a reconnu le nom. Et là, elle était déterminée à la faire prendre cet avion. Elle l'a accompagnée pour faire passer en priorité sur tous les postes de sécurité. Et pour tout le monde, c'était l'occasion de reconnaître la souveraineté de Dieu à l'œuvre, jusque dans les plus petites choses, dans les petites coïncidences. Est-ce que ça signifie que tout s'arrange toujours pour le mieux, pour les croyants? Pour la petite histoire, j'ai trois sœurs. Et donc, il y a ces deux qui ont finalement pu y aller. Mais il y a une troisième qui s'est fait voler son passeport à Paris et qui n'a pas pu prendre l'avion pour venir au mariage. Et je me souviens qu'on se demandait, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi elle n'a pas pu venir au mariage comme les autres? On réalise qu'il y a des choses qui nous échappent. On peut constater la souveraineté de Dieu et dans le même temps avoir de la difficulté à d'autres moments de comprendre ce qui se passe. Vous dites... Heureusement que j'y allais pas à ce mariage. Hein, c'est ouf. Tout le monde dit ouf. Mais la révélation qu'on a ici dans le texte, qui nous est donnée par ces quelques versets qui sont introduits dans le passage, nous disent qu'il y a bel et bien une souveraineté à l'œuvre, mais en même temps, on reconnaît que la personne en question ne le voit pas. Saül avance avec son serviteur et il n'a pas ces éléments. Il fait ce qui lui paraît utile. Vous voyez toutes ces petites décisions, ces indécisions, parfois. Ils avancent sans avoir ces éléments à l'esprit, sans voir ce qui va se passer. Le fait qu'ils ne connaissent pas l'avenir engage leur responsabilité et finalement fonde leur liberté à prendre des décisions. Et c'est pareil avec nous, le fait qu'on ne connaisse pas notre avenir est gage de notre liberté, de notre responsabilité dans les petites décisions que nous avons à prendre. La souveraineté, elle nous rassure, elle nous rappelle que Dieu est souverain, même dans les plus petites choses. Et quand on ne sait pas ce qui est en train de se passer, on peut tout simplement avancer avec les éléments qu'on a, sans devoir s'inquiéter, continuer à entreprendre ce qui nous paraît juste, tout en sachant qu'il est souverain. On passe à la rencontre du roi voulu. Au moment de choisir des prénoms, pour les parents qui sont ici, Et pour nous aussi, c'est chaque fois l'occasion de se demander, mais quel prénom est-ce qu'on choisit et comment on va le choisir avant de le choisir pour la manière dont on l'entend, la signification, est-ce que c'est trop courant, original? Mais justement, la signification dans la Bible, c'est quelque chose qui est très important. On peut penser à quelques noms comme Moïse, sauvé des eaux. On peut penser à Ruth, qui signifie compagnon, ami, Jésus, qui signifie Dieu sauve. Et quelle est la signification du nom Saül? Qu'est-ce que ça veut dire Saül? Son prénom, ça signifie demander. Demander. Et avec à l'esprit ce qu'on a lu la dernière fois, on doit se souvenir que c'est ce que le peuple a demandé. C'est la demande qui a été adressée à Dieu, la demande d'un roi. Et Dieu a accepté cette demande. Et la manière dont cette rencontre est annoncée par Dieu est intéressante. Tu lui conféreras l'onction pour qu'il soit chef sur Israël, mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. En effet, j'ai vu mon peuple et ses cris sont venus jusqu'à moi. Maintenant, si on a le chapitre 8 à l'esprit, chapitre précédent, comment est-ce que le roi avait été décrit à ce moment-là, présenté par Dieu? C'était assez négatif, hein. Vous souvenez de tous la répétition des « il va prendre ceci, il va prendre cela, il va prendre ceci, il va prendre cela, vous serez en quelque sorte ses esclaves ». Ce n'était pas très optimiste. Pourquoi est-ce qu'il est présenté ici de manière lumineuse, comme un libérateur? Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Chapitre 8, négatif. Chapitre 9, c'est différent. C'est difficile à voir quand on a le nez là dans le texte, mais certains commentateurs ont mis en évidence, quand on regarde les chapitres 8 à 14, qu'il y a une série de moments où le peuple est rassemblé et ensuite où Dieu agit. Le peuple est rassemblé, Dieu agit. Le peuple est rassemblé, Dieu agit. À trois reprises chacune. Et chaque fois qu'on regarde à la manière dont Dieu agit, ce qui nous frappe, c'est la compassion dont il fait preuve. Malgré le fait que ce peuple l'a rejeté, Dieu continue encore et encore à faire preuve de largesse, de compassion. Le peuple est loin d'être irréprochable, mais lui, il est prompt à vouloir faire grâce. Et on le trouve dans ses paroles ici. « J'ai vu mon peuple et les cris sont venus jusqu'à moi. » Le peuple ne voulait pas que Dieu règne sur eux. Mais par ses paroles, lui, il rappelle ce temps de l'Exode où la nation n'était même pas encore fondée et où il entendait les cris de ceux qui étaient esclaves en Égypte. Il les rappelle par ces paroles-là. Et au verset 16, trois fois, alors qu'ils l'ont rejeté, il parle de mon peuple, mon peuple, mon peuple. Autrement dit, humainement parlant, il aurait toutes les raisons de rejeter, alors que lui-même a été rejeté. Mais il a de cesse de démontrer sa compassion. Qu'est-ce qui se passe quand on voit ces deux chapitres en parallèle? Ce n'est pas une contradiction. Une fois, il est contre la monarchie, l'autre fois, il est pour la monarchie. Dieu n'arrête pas de changer d'avis. Ce n'est pas ça. Il y a bien une chose à relever dans ces deux passages, c'est que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne remet pas en question la gravité de leur demande. Au chapitre 8, on doit bien lire la gravité d'un rejet de sa personne. Mais Dieu ne remet pas en question la compassion dont il aime faire preuve vis-à-vis de son peuple. Il utilise les mêmes termes qu'il a utilisés des siècles plus tôt pour parler de son peuple. C'est en aucun cas la relativisation du mal, c'est en aucun cas la présentation d'un papa gâteau. Les deux éléments sont à prendre en considération. Le mal doit être encore et toujours dévoilé et il est prompt à vouloir témoigner de la compassion. Et par l'expression « ses cris sont montés jusqu'à moi », Dieu dit attendre de nous ses demandes, ses requêtes, cette compréhension de notre dépendance, de notre besoin de lui. Il attend. Comme le dit un auteur, cette expression dénote une tendre sympathie, un souci par rapport à tout ce qu'ils ont subi et une résolution à s'interposer en leur faveur. Et on va voir qu'il va effectivement s'interposer. Il y a des choses que chacun d'entre nous, dont chacun d'entre nous ne sommes pas fiers, des choses qu'on voit avec le recul. Pour moi, le fait d'être parent maintenant me rappelle toutes les fois où dans ma manière d'agir ou dans ma manière de parler, j'ai été irrespectueux de mes parents, en tant qu'enfant, mais même en tant qu'adulte, dans la manière de me comporter vis-à-vis d'eux. Et si je peux regarder en arrière tous ces moments-là et réaliser l'offense que j'ai commise vis-à-vis d'eux, c'est donc très clairement que c'est le cas actuellement. Les choses que je ne voyais pas à l'époque et que je vois maintenant, il y a certainement des choses aussi que je ne vois pas aujourd'hui et que je suis en train de commettre. Des paroles dont j'aurais honte, des choses que je suis en train de faire et dont j'aurais honte. Et ce que ce texte nous dit, c'est que Dieu ne change pas. Il va continuer à vouloir dévoiler la gravité de nos offenses, du mal que nous commettons, et en même temps, il ne va pas changer dans sa manière de démontrer sa compassion vis-à-vis de nous. N'est-ce pas magnifique d'avoir affaire à un Dieu tel que celui-là, toujours prêt à repartir à zéro? Quant à la suite du récit, on voit encore que Saül ne réalise pas où il va. Il s'approche de Samuel, il demande où est le prophète. Le timing est parfait. On voit que les femmes, en l'invitant à se dépêcher, elles ont eu raison. Et elles sont utilisées par Dieu, une rencontre orchestrée par Dieu pour que Saül se rende auprès de Samuel. Et progressivement, Samuel va dévoiler lui ce qu'il a à dire à Saül. Il ne l'annonce pas tout de suite parce que le sujet de préoccupation de Saül, ce sont les ânesses, il va le rassurer. Ça fait 3 jours déjà qu'elles ont été retrouvées. Et par la suite, Samuel l'invite à un repas. Et dans l'invitation, à qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? On entend déjà l'abondance, la générosité, le privilège d'un roi. Même si Saül n'a pas encore tout compris, il réalise qu'il y a un privilège qui lui est fait. Ne suis-je pas benjaminite, l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? On réalise là encore qu'il y a une belle humilité chez Saül. On voit son attitude de humble après qu'il ait eu cette invitation. Il ne se prend pas pour une VIP. Et Samuel continue sur ce chemin qui monte vers une plus grande reconnaissance, une place à la tête des invités, au cuisinier. Il lui demande quelque chose de particulier, la meilleure part, un avant-goût de tous les privilèges qu'il va connaître en tant que roi. Et là encore, le détail montre que ce sera apprécié, un privilège apprécié. Il mange avec le gratin, il parle avec un prophète en vue. Et dans le même temps, il va nous falloir découvrir dans les prochaines semaines la trajectoire de Saül. Un bon début ne signifie pas une bonne fin. Il a commencé avec humilité, mais il va connaître par la suite l'orgueil, une humilité palpable, un orgueil implacable. Et en sachant ça, si vous et moi, on voit sa trajectoire et on voit un bon début, une mauvaise fin, qu'est-ce qui va nous permettre d'espérer? Vivre sereinement notre vie en sachant de quoi on est capable, qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer avec confiance? La souveraineté de Dieu va encore se manifester dans l'histoire. La parole de Dieu va encore une fois s'accomplir de manière précise et magistrale dans la venue d'un autre roi. Ses origines, sa lignée, son nom, son lieu de naissance, tout dit qu'il est le roi voulu par Dieu. Sa trajectoire, elle commence avec l'humilité et au fil des pages, elle devient de plus en plus belle, de plus en plus grande, jusqu'à la mort à la croix, la mort la plus humiliante. Et sa mort à la croix, elle dit à la fois la gravité du péché, conséquence qu'il a été prêt à encaisser pour nous, en même temps que la profonde compassion de Dieu vis-à-vis de nous. Dieu n'a pas changé. Et il a accompli en Jésus ses promesses, des promesses sur lesquelles on peut s'appuyer. Chaque jour, je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ, celui qui est le parfait roi, humble et pourtant juste dans toutes ses voies. Et c'est sur lui que nous voulons placer notre foi, en lui que nous voulons avoir confiance. Nous te prions, Père, que nous puissions avancer avec liberté, responsabilité, en sachant que tu es souverain, pour la gloire de ton nom. Amen.